France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, s'il appartient à la même décennie, celle des années 1860, que Debussy, Ducas, Satie et Koechlin, Maurice Emmanuel n'en connaît pas la même notoriété. Sa musique ne figure en effet que très rarement au programme des concerts et des disques. Son travail de compositeur a pu, il est vrai, rester dans l'ombre de son métier de professeur, notamment au Conservatoire National de Musique et de Déclamation. Cette activité, Maurice Emmanuel y consacra toute son énergie, défenseur convaincu d'un accès à la musique par l'école et pionnier de la musicologie à une époque où l'enseignement des arts en France connaissait de grands changements. C'est ce que nous révèle, à la lumière de documents rares et inédits, un ouvrage collectif coordonné par Sylvie Douche et Christophe Corbier, mon invité. L'enseignement de Maurice Emmanuel, musique, histoire, éducation, sous la direction de Christophe Corbier et Sylvie Douche, qui vient de paraître aux éditions de La Tour. Laurent Vachal au piano, c'était l'ouverture de la sonatine numéro 5, opus 22, à la Française de Maurice Emmanuel. Bonjour Christophe Corbier.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et à l'Institut de Recherche en Musicologie et vous avez coordonné donc avec Sylvie Douche cet ouvrage collectif consacré à l'enseignement de Maurice Emmanuel qui vient de paraître aux éditions de La Tour. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments biographiques. J'ai dit que Maurice Emmanuel était de la décennie 1860, né en 62 exactement comme Debussy, sauf erreur, mort en 1938, donc c'est-à-dire une année après Maurice Ravel, donc à la fois compositeur et musicologue. Qu'est-ce qui vous semble le plus marquant dans le parcours de Maurice Emmanuel, Christophe Corbier, ce double parcours à la fois de compositeur et d'enseignant?
Eh bien, je pense que c'est la situation que vous avez décrite parfaitement, c'est-à-dire une hésitation ou une oscillation constante entre le métier de compositeur et le métier de professeur qu'il a pris à cœur et auquel il a beaucoup tenu malgré certaines dénégations durant sa carrière. Alors, Maurice Emmanuel, effectivement, n'a pas acquis la notoriété de Maurice Ravel, de Debussy, d'Albert Roussel et de bien d'autres compositeurs de cette génération des années 1860, 1870, jusqu'en 1875. Mais sa particularité dans le, disons, dans le paysage musical français, c'est d'avoir été à la fois un universitaire, un savant, titulaire d'une thèse de doctorat, d'une des toutes premières thèses de doctorat d'histoire de la musique, consacrée à la danse grecque antique en 1896. Et en même temps, un compositeur de musique qui était l'élève de Léo Delibes, qui était repéré dans les 1880, quand il avait une vingtaine d'années, par César Franck et par Jules Massenet, et qui a subi un certain nombre de déboires dans la classe de Léo Delibes en 1889, ce qui l'a amené à se consacrer pendant plusieurs années à cette thèse de doctorat, qui aura un grand retentissement dans l'histoire des représentations de la danse grecque antique, quelques années avant Isadora Duncan et Émile-Jacques Dalcroze.
Mmh. Et cet attachement à la Grèce antique est un peu la marque de fabrique, j'ai envie de dire, de Maurice Emmanuel.
Effectivement, à partir de cette thèse de doctorat, donc en 1896, Maurice Emmanuel apparaît comme l'un des grands spécialistes de la musique grecque antique, avec quelques autres savants, dont Théodore Reinach, qui venait de découvrir les hymnes delphiques à Delphes, les hymnes à Apollon, en 1893, et qui les avait présenté au public français en 1894 avec Gabriel Fauré, mais également le professeur d'histoire de la musique du Conservatoire de Paris, Louis-Albert Bourgou du Coudray, qui est le maître de Maurice Emmanuel dans ce domaine, et dont Maurice Emmanuel s'est toujours dit le disciple, au point de devenir son successeur en 1909.
C'est ça, oui. Mmh. Et alors, votre ouvrage rappelle le parcours d'enseignant de Maurice Emmanuel, et on voit que, quel que soit le public auquel il a affaire, il a toujours à cœur de leur proposer un enseignement très large, très ouvert, très pluridisciplinaire, et non pas strictement technique ou musical, musicologique.
Oui, on pourrait parler à son propos d'interdisciplinarité, ouais. Ce qui va devenir le grand thème de la seconde moitié du XXe siècle, ouais. Ou voire de transdisciplinarité, comme on a tendance à le dire aujourd'hui. Le fait est que par cette recherche sur la musique grecque antique et sur la danse grecque antique, qui est véritablement centrale et une sorte de matrice de son œuvre théorique de compositeur, eh bien par cette recherche, il a accès à un très vaste ensemble de disciplines, ce qui va de l'ethnologie jusqu'à l'archéologie, en passant évidemment par l'histoire de la musique et l'histoire de l'art. Et c'est ce que nous avons voulu montrer dans notre volume, c'est ce grand spectre, cette grande ampleur de vue qu'il va tenter de faire passer à ses élèves au conservatoire à partir de 1909.
Et qui était nouveau à l'époque, cette largeur. Ce spectre, comme vous venez de dire, Christophe Corbier.
Effectivement, il y a peu de compositeurs qui enseignent au Conservatoire de Paris, en particulier, ou dans les établissements de musique, dans les écoles de musique, qui proposent une telle perspective,
un champ aussi large.
Ouais.
Qui reflète d'ailleurs son propre parcours, parce que vous avez dit conservatoire, mais aussi donc études de lettres, et l'école du Louvre, c'est ça.
C'est cela. Oui. Et lorsqu'il arrive au conservatoire, donc en présence de Gabriel Fauré, il prononce sa leçon d'ouverture au cours d'histoire de la musique en décembre 1909. Et d'emblée, il explique qu'il va apprendre la musique par l'histoire de l'art à ses élèves, dont certains devaient être assez jeunes et exclusivement consacrés à la carrière de musicien. Il y a une volonté d'ouvrir très largement le champ à ce qu'on appelait à cette époque la culture générale, qui faisait partie de l'enseignement scolaire. Et Maurice Emmanuel va transposer au conservatoire un certain nombre de méthodes qu'il a acquises dans les années précédentes, dans les 1890 et 1900, à l'université et dans l'enseignement secondaire, mais également à la Schola Cantorum. Alors vous disiez qu'il y avait peu de compositeurs, professeurs qui avaient cette ampleur de vue, mais je pense qu'on peut citer Vincent Dindy,
bien sûr,
qui était proche d'Emmanuel, ou dont Emmanuel plutôt était proche, au point qu'il enseignait à la Schola de 1907 à 1912, parallèlement à ses premières années au Conservatoire de Paris. Et les deux hommes sont assez semblables dans leur volonté d'ouvrir très largement le champ.
Vous serez si modèle, vous ne penserez plus en moi. Vous verrez. il décrète, il décrète, pour conserver les souvenances de notre temps. Mais que diront vos cavaliers, vos voyants biques du pipi? Il y a dirait, sale portrait de mes mignonnes du temps passé. Et nous buvons, chers camarades, et c'est santé.
Florence Katz, mezzo-soprano, Jean-Pierre Quénaudon, ténor. Au piano, Laure Rivière, c'était un extrait des 30 chansons bourguignonnes du pays de Beaune de Maurice Emmanuel. C'était Belle, il m'en va en l'Allemagne. Je suis pas sûr de bien parler le bourguignon. Christophe Corbier, la Bourgogne, le pays de Beaune, parce que Maurice Emmanuel a passé toute son enfance, il n'est pas né, mais il a passé son enfance à Beaune, hein, c'est ça?
Exactement, il a passé une dizaine d'années entre 1869 et 1880 à Beaune. Et il est toujours resté très attaché à sa région, au point d'être un défenseur donc du régionalisme en musique et plus largement dans le domaine politique. On avance de la décentralisation. Enfin, il y avait tout un mouvement à l'époque en faveur donc de la décentralisation auquel il a participé et qu'on va trouver également à la Scola quant au Rhum. Et Maurice Emmanuel était en quelque sorte le représentant musical de la Bourgogne, au point que lorsque Jacques Copeau s'installe à Pernant-Vergelès pour fonder la troupe des Copiaux, c'est à Maurice Emmanuel qui s'adresse immédiatement pour avoir accès à ses chansons bourguignonnes et les faire danser et ouais, interpréter par ses élèves.
Christophe Corbier, est-ce qu'on peut dire que, si on fait une petite parenthèse et qu'on se consacre à Maurice Emmanuel, compositeur, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, l'intérêt pour les modes grecs, mais aussi donc pour les chansons, les chants traditionnels, est pensé comme une façon de renouveler le langage musical à une époque où il y avait d'autres propositions de l'autre côté du Rhin, par exemple? Est-ce que justement le folklore et les modes grecs anciens sont conçus comme une sorte d'outil pour rajeunir ou renouveler la langue musicale?
Tout à fait. C'est un thème qu'on va trouver développé chez de nombreux compositeurs, à commencer par Camille Saint-Saëns et Louis-Albert Bougoudrey, dont j'ai cité le nom, qui annonçait dès 1878, lors de ses premières leçons d'histoire de la musique au Conservatoire de Paris, que les modes populaires, enfin ce qu'on appelait les modes populaires et les modes grecs, étaient un moyen de régénérer le thème,
voilà,
était ouais, dans l'air du temps, ouais, de régénérer la musique française et surtout de lui imprimer une marque nationale par rapport à la musique allemande.
Alors justement, la musique allemande, elle a été évoquée, en tout cas l'Allemagne a été évoquée par cette chanson bourguignonne. Et on apprend donc à la lecture de votre livre consacré à Maurice Emmanuel, enseignant, que des deux côtés du Rhin, le système, l'apprentissage de la musique et de la musicologie était assez différent et reposait sur des fonctions d'évaluation assez différentes. D'un côté, les concours en France et les examens en Allemagne. Qu'est-ce que ça reflète, Christophe Corbier?
Cela reflète déjà une préoccupation propre à cette génération des années 1860, une préoccupation des historiens, peut-être plus encore que des compositeurs,
ouais,
si on accepte donc Bourgoud-du-Coudray et quelques ouais, autres, et Vincent Dindy en particulier. C'est en fait donc une préoccupation qui est celle de fonder une musicologie française, qui à l'époque est quasiment inexistante à l'université. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Maurice Emmanuel est l'un des trois premiers docteurs S-lettres qui consacrent une thèse de doctorat à un sujet musical, les deux autres étant Romain Rolland, sur l'opéra, les origines de l'opéra, et Jules Combarieux sur les rapports entre la poésie et la musique. Et donc nous trouvons là les trois figures de proue à cette époque, entre 1894 et 1896, de la jeune musicologie française, et c'est le moment où Romain Rolland a l'intention véritablement d'édifier une musicologie française qui soit digne de rivaliser avec la musicologie allemande, bien plus développée à ce moment dans les universités. Et c'est dans ce contexte que Maurice Emmanuel reçoit la tâche de la part du ministère de l'Instruction publique d'aller enquêter pendant plusieurs mois en 1897 dans les conservatoires et dans les universités autrichiennes et allemandes pour observer le système d'enseignement de la musique. Et c'est là qu'il découvre un système qui le fascine. Et son parcours est d'ailleurs très intéressant parce que il ne se rend pas à Bayreuth alors qu'il est présent en Bavière et à Munich pendant plusieurs semaines au moment du festival de Bayreuth. Et il a là déjà une première particularité par rapport, disons, au grand tour, si je peux emprunter cette oui. expression, des musiciens français qui font le pèlerinage de Bayreuth. Oui. Donc lui ne se rend pas dans le temple de Bayreuth, mais il observe ailleurs le système d'enseignement et la vie musicale en Allemagne. Et ce qu'il découvre, effectivement, c'est un système totalement différent où l'ambition d'être premier, comme il dit, et de remporter un prix, eh bien, est beaucoup moins importante de fait, puisque le système est différent, qu'en Allemagne où les musicologues et les compositeurs sont bénéficient d'un enseignement très solide, d'une culture générale très large et de compétences philologiques et historiques absolument incomparables avec celles des musiciens français. Mmh. Et il écrit un très grand rapport à Théodore Dubois, qui est directeur du conservatoire et qui a laissé donc une image très conservatrice après le scandale Ravel. Mais on voit déjà qu'il est très intéressé par les conclusions d'Emmanuel dans son rapport et qu'il nourrit le projet de renouveler l'enseignement avant l'arrivée de Gabriel Fauré en 1905.
Et est-ce qu'il réussira, est-ce qu'il aura tout simplement déjà comme ambition, Maurice Emmanuel, de transposer ce système allemand en France, ou tout du moins de l'adapter?
Oui, il essaie de l'adapter à la fois par ses contributions théoriques dans les revues, dans les journaux, dans la presse ou plus tard à la radio, et dans son propre enseignement, en insistant sur quelques points. Le premier, c'est l'importance du chant, et en particulier du chant choral, qu'il va découvrir auprès de Franz Wüllner, qui était directeur du conservatoire de Cologne en 1897, mais qui était également le créateur de l'Or du Rhin et la Valkyrie en 1869 et 1870. Et cela, Michel Alten l'évoque
de manière premier article,
voilà, très précise. Et Maurice Emmanuel va également présenter donc au public français dans la Revue de Paris en 1898 toutes les directions possibles pour créer une musicologie française qu'il espérait lui-même fonder au Collège de France, mais par un malheureux concours de circonstances, à deux reprises, en 1898-99, puis en 1904, il ne parvient pas à être élu, et c'est Jules Combarieux, mm-hmm. qui lui-même avait été en Allemagne pendant quelques années auparavant, qui sera nommé professeur d'histoire mm-hmm. de la musique en 1904.
Et Christophe Corbier, quand Maurice Emmanuel s'adresse à des jeunes filles, quand il enseigne dans des lycées de jeunes filles, quelle est alors son ambition quand il enseigne la musique, ou plutôt une sorte de culture musicale générale? Parce que c'est l'article que vous avez signé dans cet ouvrage collectif.
Oui, concernant donc l'enseignement de l'histoire de l'art et de la musique dans les lycées de jeunes filles, il m'a semblé qu'il était intéressant d'observer la façon dont Maurice Emmanuel, en 1898, a participé à l'édification de cette discipline qui n'existait pas, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle était réservée en priorité au lycée de jeunes filles. Elle n'était pas présente dans les lycées de garçons. Malgré les appels de grands historiens de l'art et d'archéologues comme Émile Malle ou Georges Perrault, qui, mm-hmm. Émile Malle était alors tout jeune, il était de la génération d'Emmanuel. Donc malgré ces appels, à généraliser cet enseignement dans tout le système scolaire. Alors, ce qu'on peut voir dans ces cours qui ont été conservés, ce qui est très rare d'ailleurs, c'est la façon dont Emmanuel conçoit cet enseignement d'un point de vue technique. Sa méthode s'approche de celle d'historien de l'art comme Léon Rosenthal, qui réfléchit au même moment à la manière d'enseigner cette nouvelle discipline de manière la plus démocratique possible. Et ce qui était intéressant, c'est de comparer le cas Maurice Emmanuel avec des cours que Romain Rolland a donné aussi dans les lycées de jeunes filles, et qui révèle là, au contraire, l'universitaire hein, qui ne conçoit pas cet enseignement, disons, pour tous. Hein. C'est-à-dire qu'il reprend ses cours de l'université et
il serait plus élitiste, si on veut schématiser.
Oui, en tout cas, Romain Rolland n'avait pas les mêmes vues. C'est une approche beaucoup plus scientifique et plus sévère.
Thank you.
L'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé par Philippe Gaubert en 1928, c'était un extrait du Scherzo de la symphonie en ré mineur de César Franck. Christophe Corbier, quelques mots sur Philippe Gaubert, qui dirige l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire entre 1919 et 1938. Concerts pour lesquels Maurice Emmanuel va rédiger des textes de présentation. C'est un des premiers, apprend-on, à la lecture de votre ouvrage, à écrire des textes de présentation pour les concerts ?
Oui, il a participé, comme le montre bien Sylvie Douche, et comme l'a montré également Léa Oberti, qui est co-autrice de l'étude sur ces programmes. Donc, Maurice Emmanuel a participé à cette façon de guider l'écoute et de préparer le public à l'audition de l'œuvre musicale dès 1905 pour les sociétés des concerts du conservatoire. Donc là aussi, il y a tout un ensemble d'archives dont nous disposons qui est tout à fait intéressant pour observer comment le professeur d'histoire de la musique accompagne ouais. le public dans cette découverte de l'œuvre.
Là encore, c'est la volonté de s'adresser à un large public ?
Oui, et pourtant ces notices sont très analytiques, très souvent, mais on sent qu'il est toujours animé par cette idée de vulgariser, comme on est aujourd'hui, mais vraiment dans le bon sens du terme, de diffuser le plus largement possible les connaissances musicales, parfois peut-être avec une certaine intransigeance ou un certain idéal du public, parce que tout le monde, j'imagine, ne devait pas lire très précisément une partition comme le fait Maurice Emmanuel. Mais il y a vraiment cette volonté de présenter et de diffuser les créations contemporaines aussi bien que la musique du passé. Mmh. Et dans les notices des concerts du conservatoire, Maurice Emmanuel s'attache vraiment à présenter ses œuvres avec l'aval des compositeurs. Un certain nombre de lettres montrent qu'il a, par exemple, écrit à Maurice Ravel pour présenter la valse, ou à Georges Migaud, à Jacques Ibert, à Paul Dukas, pour recueillir le plus de renseignements possible, afin d'être le plus fidèle au compositeur qu'il présentait.
Le chœur Calliope Marie-Cécile Milan au piano, dirigé par Régine Teodorescu. C'était un extrait des chœurs opus 80 de Florent Schmitt, Si la lune rose, sur un poème de Cécile Sauvage, qui était la mère d'Olivier Messiaen, un des élèves de Maurice Emmanuel. Christophe Corbier, un mot justement pour terminer sur les élèves de Maurice Emmanuel.
Sans conteste, Olivier Messiaen est le plus connu de ses élèves, avec Henri Dutilleux. Il faut dire que Maurice Emmanuel a enseigné pendant près de 30 ans au conservatoire, de 1909 à 1936, donc il a eu énormément d'élèves qui sont passés par ses classes. Alors, les bons élèves, si je puis dire, comme Olivier Messiaen, Henri Dutilleux, Yvonne Lefébure, Jean Alain, l'organiste donc très célèbre, mort en 1940, Georges Migaud, les élèves dont on a un peu plus de mal à trouver la trace, comme Arthur Honegger, voire les cancres, entre guillemets, bien entendu, comme Darius Milhaud. Mais blague à part, tous ont été sensibles aux idées de Maurice Emmanuel, et nous savons que Maurice Emmanuel était lui-même très sensible aux créations de ses élèves qu'il accompagnait également par ses notices et auxquelles il s'intéressait constamment.
Très bien, je vous remercie Christophe Corbier. Et si on veut davantage connaître ou découvrir tout simplement la musique et l'univers de Maurice Emmanuel, je cite quelques ouvrages auxquels vous avez participé ou que vous avez rédigés, puisque vous êtes, on va dire, le grand spécialiste de Maurice Emmanuel. Il y a une biographie parue chez Bleu Nuit Éditeur. Là, vous avez également publié Poésie, musique et danse chez Classique Garnier. Et puis, Sélection de sa correspondance, qui est parue chez Vrin. Et puis, il y a également le site des Amis de Maurice Emmanuel. C'est mauriceemmanuel.fr. On peut s'y référer. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Laurent Lefrançois, la technique Inès De Bruyne, attachée de production Annick Aumier. La semaine prochaine, je serai en compagnie de Stéphane Leteret et nous parlerons de Camille Saint-Saëns, vue par la caricature. D'ici là, excellente journée et excellente semaine à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.